VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Bion pour Le Monde Aujourd'hui à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 26 avril 2023. Au Soudan, l'armée affirme que l'ancien président Omar El-Béchi est gardé dans un hôpital après l'évasion de personnalités de son régime. Le patron de Wagner dément des pertes au Mali lors de l'attaque de Sévaré samedi dernier. L'Afrique du Sud annonce finalement ne pas quitter la Cour pénale internationale.
Que c'est le Parlement qui est compétent pour prendre cette décision.
L'analyste André Thomas Hausen nous expliquera dans la partie magazine le rétro-pédalage de Pretoria sur la CPI. Joe Biden accueille le président sud-coréen à Washington. Xi Jinping et Vladimir Zelensky se sont entretenus par téléphone. Le président ukrainien a nommé un ambassadeur en Chine après cet entretien. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les évacuations d'étrangers et de civils fuyant les combats se poursuivent au Soudan au deuxième jour d'un cessez-le-feu de 72 heures partiellement respecté. La fuite de prison d'un ancien responsable de la dictature recherché pour crimes contre l'humanité fait craindre un nouvel embrasement de la situation. Les précisions avec Alexandrine Ollognon.
Un bateau transportant plus de 1600 civils et originaire de plus d'une cinquantaine de pays est arrivé mercredi en Arabie Saoudite. Les évacuations des ressortissants étrangers se poursuivent par voie terrestre, aérienne et maritime, alors que le cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis reste fragile. L'évasion de personnalités du régime déchu d'Omar El-Béchir, dont l'une au moins est recherchée par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, fait craindre que le conflit ne prenne une tournure encore plus grave. Ahmed Haroun, l'un des principaux collaborateurs d'Omar El-Béchir, a déclaré hier soir que lui et d'autres membres du régime s'étaient évadés de la prison de Kober. En réponse, l'armée soudanaise a affirmé que Béchir était toujours dans un hôpital sous la garde de la police judiciaire. Les combats qui opposent depuis 12 jours les paramilitaires et l'armée régulière ont fait plus de 459 morts et plus de 4000 blessés, selon l'ONU.
La Maison-Blanche a annoncé ce mercredi qu'un deuxième Américain a trouvé la mort mardi au Soudan. John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, a déclaré aux médias que les États-Unis s'emploient activement à faciliter le départ d'un petit nombre d'Américains cherchant à quitter le Soudan. Le Nigeria, qui compte de nombreux ressortissants, a commencé aujourd'hui à les évacuer du Soudan. 7 bus ont quitté Khartoum et se dirigent vers l'Égypte, a déclaré Manzo Ezekiel, porte-parole de l'Agence nationale de gestion pour les urgences du Nigeria. En tout, une quarantaine de bus ont été loués pour transporter les Nigériens bloqués, selon M. Ezekiel, qui a précisé que 3500 Nigériens devait être transporté dans un premier temps à Assouan, dans l'Égypte voisine. Toujours au Soudan, une évaluation approfondie des risques sanitaires est en cours après la prise d'un laboratoire par l'une des parties combattantes dans la capitale soudanaise où se trouvent des échantillons d'agents pathogènes très contagieux dont la rougeole, a indiqué aujourd'hui l'OMS. Nous craignons également que les personnes qui occupent le laboratoire ne soient accidentellement exposées aux agents pathogènes qui y sont stockés, a déclaré le directeur général de cette agence spécialisée onusienne, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse à Genève. Le dirigeant du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, a démenti toute perte dans ses rangs lors d'une attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans à Sévaré, dans le centre du Mali. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Selon mes informations, personne n'a été blessé à Sévaré. Front al-Nusra, groupe djihadiste actif en Syrie, Al-Qaïda et d'autres organisations se donnent des airs. Ça fait de nombreuses années qu'ils sont très faibles et incapables d'attaquer qui que ce soit, a réagi Evgeny Prigojine, cité par son service de presse. Le patron de Wagner ajoute que du côté des terroristes, les pertes sont élevées, affirmant que l'armée malienne contrôle le Mali parfaitement. Mardi, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué une attaque samedi à Sévaré, affirmant avoir fait des dizaines de morts et blessés parmi l'armée malienne et les combattants de Wagner. Dimanche, le gouvernement malien a annoncé la mort de 10 civils et 3 soldats après l'explosion de voitures piégées dans la zone de l'aéroport de Sévaré. 2 élus locaux et une source diplomatique avaient désigné le lieu de l'attaque comme étant un camp abritant des troupes russes. Le groupe djihadiste assure avoir fait exploser deux voitures piégées qui ont détruit une partie de l'aéroport et soutient que ces hommes sont ensuite entrés à l'intérieur, menant des combats pendant 2 heures.
5 nouveaux corps ont été exhumés ce mercredi dans la forêt de Chakaola, dans l'est du Kenya, portant à 95 le nombre de morts au sein d'une secte qui prenait un jeûne extrême pour rencontrer Jésus, après avoir annoncé mardi soir une pause dans les recherches de fosses communes pour mener des autopsies et des engorger les morgues, les autorités ont repris les fouilles ce mercredi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a accueilli en grande pompe aujourd'hui à la Maison-Blanche son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol, les deux dirigeants devant annoncer un renforcement du parapluie sécuritaire des États-Unis pour cet allié clé face à la Corée du Nord. Le président Yoon, qui effectue une visite d'État de 6 jours aux États-Unis, est arrivé sous les acclamations de quelques centaines de personnes rassemblées devant la Maison-Blanche et a reçu les honneurs militaires lors d'une cérémonie bien rodée. Le président américain a prévenu aujourd'hui qu'une attaque nucléaire de la Corée du Nord provoquerait la fin du régime lors d'une conférence de presse commune avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol à la Maison-Blanche. Le locataire de la Maison-Blanche se rendra au prochain sommet du G7. Ce sera du 19 au 21 mai à Hiroshima, au Japon, a annoncé ce mardi la Maison-Blanche. M. Biden et les chefs d'État du G7 discuteront notamment du soutien indéfectible à l'Ukraine, des crises alimentaires et climatiques, de la façon de garantir une croissance économique inclusive et résiliente et des efforts pour une transition vers une énergie propre, a indiqué la porte-parole de l'exécutif Karine Jean-Pierre dans un communiqué. Le président démocrate se rendra aussi le 24 mai à Sydney pour un sommet du Quad qui regroupe les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde. Le président chinois Xi Jinping a assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que la Chine avait toujours été du côté de la paix et a appelé à la négociation à l'occasion de leur premier entretien téléphonique depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Claire Morin-Gibou.
Le dialogue et la négociation sont la seule issue au conflit avec la Russie, a déclaré Xi Jinping selon la chaîne de télévision d'État chinoise. La position fondamentale de la Chine est de promouvoir un dialogue de paix, a ajouté le chef de l'État chinois. De son côté, le président Volodymyr Zelensky a souligné avoir eu un long et significatif entretien avec M. Xi. Il a dit espérer une impulsion puissante au développement des relations bilatérales entre Kiev et Pékin, annonçant dans la foulée la nomination d'un ambassadeur en Chine. La Maison-Blanche a salué l'entretien téléphonique des deux chefs d'État. C'est le premier contact direct entre les deux dirigeants depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022.
L'Ukraine a marqué aujourd'hui le 37e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en exhortant le monde à ne pas céder au chantage de la Russie sur les installations nucléaires dont elle s'est emparée au cours de son invasion. Les autorités ukrainiennes ont accusé Moscou d'exploiter les problèmes de sécurité soulevés par son occupation des centrales nucléaires ukrainiennes pour tenter de faire chanter Kiev et ses alliés afin qu'ils répondent aux exigences de la Russie concernant son invasion. La Russie nie ces accusations. L'opposant russe Alexei Navalny a affirmé aujourd'hui qu'il risquait la prison à vie dans des affaires absurdes pour extrémisme et terrorisme en pleine vague de répression parallèle à l'offensive en Ukraine. Pendant l'audience de mercredi, M. Navalny a fustigé des accusations absurdes portées contre lui, affirmant qu'il risquait jusqu'à 35 ans de prison dans le cadre de poursuites pour extrémisme au contour encore flou. Dans le centre-est de l'Inde, 10 policiers et leur chauffeur ont été tués aujourd'hui quand leur véhicule a heurté un engin explosif artisanal, une attaque attribuée par les autorités aux rebelles maoïstes avec lesquels le conflit s'est intensifié ces dernières années. Il s'agit des pertes les plus lourdes subies par les forces de sécurité dans ce pays en plus de 2 ans. La violence terrifiante des gangs qui sévissent en Haïti se propage à un rythme alarmant dans des zones jusqu'ici relativement épargnées, a alerté aujourd'hui l'émissaire de l'ONU dans le pays. La violence terrifiante dans les zones où sévissent les gangs, y compris les violences sexuelles particulièrement contre les femmes et les filles, est emblématique de la terreur qui touche une grande partie de la population d'Haïti, a lancé Maria Isabel Salvatore lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ex-président brésilien brésilien Jair Bolsonaro a commencé à être auditionné aujourd'hui par la police fédérale sur son rôle dans le saccage par ses partisans le 8 janvier dernier des lieux du pouvoir à Brasilia. Un juge de la Cour suprême avait ordonné à la mi-avril que soit entendu Bolsonaro, qui se trouvait le 8 janvier à Orlando, ici aux États-Unis, et a toujours nié son implication dans ces émeutes, survenues une semaine après l'investiture du chef de l'État de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mouamadou Moufa.
Le groupe Suez a annoncé mercredi avoir conclu le tout premier partenariat public-privé dans le secteur de l'eau en Tunisie, en s'associant à l'office public ONAS dans l'assainissement des eaux usées d'une région du sud desservant près d'un million d'habitants. Ce contrat de 200 millions d'euros d'une concession de 10 ans sera financé par la Banque mondiale pour les travaux de réhabilitation et d'extension des infrastructures et par l'État tunisien pour leur exploitation et leur maintenance. La corruption au sein de la compagnie publique sud-africaine d'électricité Eskom a atteint des niveaux alarmants et dépasse 55 millions de dollars par mois, a révélé l'ancien PDG de l'établissement André de Ruyter lors d'une audition virtuelle devant le comité permanent des comptes publics du Parlement sud-africain. Le comité envisage d'ouvrir une enquête sur la base de ces révélations. L'aide publique au développement de l'Afrique est une priorité française à l'heure où le soutien financier international se focalise sur l'Ukraine, a affirmé le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, dans un entretien à l'AFP. L'Agence française dit avoir consacré l'an dernier à l'Afrique près de la moitié de ses nouveaux financements, soit 5,5 milliards d'euros. Pendant ce temps, le soutien des pays riches vers l'Afrique subsaharienne a reculé de 7,8%.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La Basketball Africa League saison 3 reprend du service avec les matchs de la conférence NIL.
Vie de club hôte à l'Ali du Caire et les Mozambicains de Ferroviário da Beira ont donné le ton avec un match inaugural enlevé par les hôtes 92-74. Deux matchs au programme demain jeudi. Les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club font face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers et les Angolais de Petro de Luanda affrontent les Ougandais des City Oilers. Les rencontres de cette conférence se poursuivront jusqu'au 6 mai. Six clubs sont en lice pour quatre places qualificatives pour les playoffs prévues du 21 au 27 mai à Kigali au Rwanda. Il s'agit d'Al-Ahly Sporting Club d'Égypte, formation haute, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, City Oilers de l'Ouganda, Petro de Luanda, Ferroviário da Beira du Mozambique et Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée. Pour rappel, les quatre qualifiés de la conférence Sahara pour les playoffs sont le stade malien de Bamako, l'AS Douane du Sénégal, Rwanda Energy Group et Abidjan Basketball Club.
Basketball toujours, les demi-finales se dessinent pour certaines équipes ici en NBA.
Oui, Denver et Phoenix s'affronteront en demi-finale à l'Ouest. Bagasikura.
Les dénouements attendus à l'Ouest ont bien eu lieu. Les Nuggets ont néanmoins dû batailler ferme face aux Minnesota Timberwolves, battus 112 à 109, qualifiés avec une victoire 4 à 1 dans sa série. Denver, tête de série numéro 1 à l'Ouest, affrontera Phoenix numéro 4. Les Suns en ont aussi fini en 5 matchs avec les Clippers battus 136 à 130. Phoenix a été notamment porté par Devin Booker, 47 points contre les Clippers. De leur côté, se voyaient un peu trop tôt affrontés en demi face aux Philadelphia Sixers, déjà qualifiés, car menant de 13 unités au début du dernier quart-temps, Boston s'est fait rattraper et distancer à Atlanta. Au final, les Celtics ont dû s'incliner 119 à 117 devant les Hawks. Boston va devoir donc se remettre de cette désillusion, même s'il demeure en ballotage favorable, menant encore 3 à 2.
Paolo Banchero, élu rookie de la saison NBA.
Oui, l'ailier américain qui évolue au Magic d'Orlando a été élu rookie de la semaine, confirmant son statut de numéro 1 de la dernière draft. Après une première saison réussie en NBA, Paolo Banchero a obtenu 98 des 100 votes pour la première place de ce classement lors du vote désignant le meilleur jeune joueur après un exercice inaugural. Le joueur âgé de 20 ans a compilé en novembre 20 points, 6,9 rebonds et 3,7 passes décisives, jouant un rôle clé dans la reconstruction d'Orlando qui a fini en 13e position dans la conférence Est. Dès son premier match sous le maillot du Magic,
en octobre dernier, il s'était distingué en réussissant 29 points, 9 rebonds et 5 passes décisives. Il a largement devancé son dauphin Jalen Williams d'Oklahoma City et Walker Kessler de Utah, qui s'est classé 3e.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Villon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au milieu d'un fragile cessez-le-feu au Soudan, négocié sous l'égide des États-Unis, la fuite de prison d'un ancien responsable soudanais recherché pour crimes contre l'humanité en compagnie d'autres ex-collaborateurs suscite des craintes d'instabilité accrue dans le pays. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Khartoum le journaliste Salah Mohamed El Hassan Osman qui parle d'abord de l'application de la trêve de 72 heures.
Généralement, c'est calme. Il n'y a pas de reprise de guerre, comme on peut le dire proprement. C'est calme, à part quelques coups d'artillerie qui viennent de temps à autre, des deux côtés de la ville, qui est au nord de Khartoum.
Est-ce que les habitants de Khartoum peuvent circuler librement?
À pied, oui. Moi, personnellement, je suis sorti de chez moi, j'ai fait une tour à un lieu à peu près à 2-3 kilomètres de chez moi. Je suis rentré dans un marché local et la vie d'apparence est normale.
Et la trêve va tenir jusqu'à quand?
Mais je n'attends pas. Je n'attends pas que ce soit respecté parce qu'on parle de mobilisation des forces aériennes de l'armée soudanaise dans une base militaire à Omdurman. On parle de mobilisation de forces terrestres dans quelque part à l'est et au sud de la ville de Khartoum. Alors, c'est la deuxième journée de cette trêve au cessez-le-feu provisoire. On espère qu'il continue. La plupart des gens ne sont pas optimistes parce qu'il y a des déplacements massifs qui continuent. Il y a des centaines de gens qui quittent la ville vers Al Jazeera et vers le Nil Blanc, deux régions voisines de Khartoum.
Il y a des informations qui disent que l'ancien président Béchir serait sorti de la prison. Quelle est la vraie version?
Non, c'est pas vrai. En fait, ce sont les partisans de Béchir qui étaient dans la prison de Khobar qui sont sortis. Ils sont sortis de prison. Mais Béchir lui-même, il était hospitalisé dans un hôpital militaire qui s'appelle Alia, dans le corps militaire de l'armée soudanaise. Alors il n'est pas sorti de prison. Mais ses assistants, surtout Ahmed Haroun, qui est demandé par la Cour pénale internationale, est sorti. Il a diffusé un vidéo où il remercie l'armée soudanaise pour cette libération. Mais ce n'était pas une libération. C'était à cause des pénuries de nourriture, d'électricité, parce que les autorités des prisons n'ont pas pu assurer la sécurité des prisonniers. Ils ont ouvert la porte et leur demandé de se sauver.
Est-ce que l'armée a fait une mise au point, a communiqué là-dessus?
L'armée, oui, a publié un communiqué de presse en disant qu'il n'a pas de lien, de rapport avec cette libération et que les prisons ne sont pas de l'autorité de l'armée soudanaise, mais de l'autorité du ministère de l'Intérieur.
Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste soudanais, joint à Khartoum. La présidence sud-africaine évoque une erreur de communication du parti au pouvoir au sujet d'un éventuel retrait du pays de la Cour pénale internationale. Un sujet qui fait débat dans le pays depuis le mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine pour crimes de guerre en Ukraine, alors que l'Afrique du Sud doit accueillir en août un sommet des BRICS dont la Russie est membre. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Pretoria le professeur de droit André Thomas Aosen de l'Université d'Afrique du Sud.
Bon, c'est ce qui s'est passé, et c'est même un peu amusant que pendant la réunion de presse conjointe avec le président de la Finlande, notre président Ramaphosa de l'Afrique du Sud a tout d'un coup déclaré que l'Afrique du Sud se sentirait obligée de se retirer du tribunal pénal international. en vertu de, du manque d'objectivité et du manque de traitement équitable des situations et des pays par ce tribunal. Le lendemain, le parti ANC a fait une déclaration pour définir une politique du parti, qu'en vérité, oui, en 2017, le parti avait pris une résolution pendant le congrès du parti que l'Afrique du Sud devrait quitter.
Finalement, la présidence sud-africaine a déclaré mardi qu'il s'agissait plutôt d'une erreur de communication et que l'Afrique du Sud restait bel et bien dans le statut de reste signataire du statut de Rome.
Oui, c'est vrai. Il y a quelques heures que le porte-parole de la présidence a spécifié que le président ne voulait pas s'anticiper à la décision du Parlement. Parce que c'est le Parlement qui est compétent pour prendre cette décision et que, en tant que cela n'arriverait pas, l'Afrique du Sud se maintient comme membre du Tribunal pénal international. Et c'est évident, c'est vrai, par le statut du TPI, il faut attendre 12 mois, il faut donner un préavis de 12 mois pour qu'un pays se puisse retirer.
Mais tout cela, on peut dire que c'est en toile de fond des relations entre l'Afrique du Sud et la Russie, puisque le président Poutine devrait se rendre en Afrique du Sud et que la CPI a lancé un mandat d'arrêt. Comment est-ce que cela est interprété sur place?
Le prochain sommet des BRICS aura place ici en Afrique du Sud et ce sera un embarrassement terrible si vraiment l'Afrique du Sud serait obligée à exécuter un mandat d'arrêt contre le président Poutine. Comme juriste, dans mon interprétation, cette obligation légale n'existe pas parce que le mandat n'a pas été émis à la requête du Conseil de sécurité des Nations Unies, contraire à ce qui s'avait passé avec le président Bachir du Soudan.
C'était André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
La crise sécuritaire au Burkina Faso a entraîné le déplacement interne de plus d'1,9 million personnes en mars dernier. Cette situation a engendré une tragédie humaine. Certains déplacés qui ont tout perdu lors d'attaques terroristes font preuve de résilience et tentent de se reconstruire. Deux femmes vivant à Kaya, à 100 km de Ouagadougou, ont accepté de témoigner de leur expérience auprès de notre correspondant Gilles Dasda.
Au secteur 7 de Kaya, Fatih a le cœur à l'ouvrage. Rassembler le gravier à l'aide d'un simple balai, un dur labeur sous le soleil. Mais c'est cette activité qui permet à la jeune trentenaire de nourrir les siens. Pour la vente, chaque tas va lui rapporter la somme de 2000 francs CFA, un peu plus de 3 dollars US. Fatih est une déplacée interne. Cela fait plus d'un an et demi qu'elle s'est installée ici à Kaya, dans le centre nord du Burkina. De sa famille, ils sont 16 à avoir fui Tabrema, leur village, assailli par des individus armés non identifiés. Après plus de 10 jours de marche, c'est ici que la famille a trouvé refuge.
À notre arrivée, nous avons reçu du riz grâce aux autorités. Et après cela, nous avons eu une somme d'argent. Ça fait un moment qu'on ne reçoit plus rien. C'est vraiment dur pour nous. Je racle ces graviers pour vendre afin d'avoir quelque chose pour moi et ma famille.
Pour cette mère de 6 enfants, la vente d'agrégats n'est qu'un passage. Enfin, si les choses se déroulent comme elle l'entend.
Une fois ces graviers vendus, on utilise cet argent pour acheter de la nourriture et aussi de quoi survenir aux tâches de la famille.
Adama, le mari de Fatih, est quant à lui parti de son village bien avant le reste de sa famille.
C'est grâce au gravier que ma femme vend que nous nourrissons toute la famille.
À Kaya, d'autres quartiers ont poussé de terre. Des maisonnettes, souvent construites à la hâte, pour être louées aux déplacés internes, comme ici au quartier Tiwega, à l'autre bout de la ville de Kaya. C'est là que Rasmata Sawadogo a installé son petit salon de coiffure. Un hangar fait de briques et de brocs, du matériel récupéré en brousse. Elle aussi a fui son village, Foubé, à une trentaine de kilomètres d'ici, il y a plus d'un an. Elle et sa famille sont arrivées ici sans rien.
Au début, l'État nous aidait. Mais cela fait 4 mois que nous n'avons plus entendu parler d'elle. Je stresse ma tête. C'est ce qui me permet d'acheter les condiments. J'arrive aussi à épargner un peu d'argent. Et à la fin du mois, cela me permet d'acheter de la nourriture.
Des produits cosmétiques, des perles pour embellir les coiffures. Rasmata fait le maximum pour tirer son épingle du jeu. De nombreux enfants, dont des neveux et nièces, des chefs de famille qui ont du mal à subvenir aux besoins des leurs. Des épouses résilientes qui se battent contre vents et marées pour rester debout et dans la dignité. Tel est le quotidien de nombreux déplacés internes, chassés de chez eux comme près de 2 millions d'autres à cause de l'insécurité.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Alors qu'Israël, profondément divisé au plan politique, célèbre son 75e anniversaire, les analystes disent que l'Iran gagne en force au Moyen-Orient et pourrait menacer l'État hébreu sur plusieurs fronts. La correspondante de la VOA à Jérusalem, Linda Greinstein, a eu des entretiens avec certains de ses analystes. Le récit est de Nathalie Barge.
Israël est en proie à des divisions internes et à des manifestations de masse contre la refonte judiciaire souhaitée par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Certains analystes disent que l'Iran et ses forces mandataires régionales considèrent les troubles intérieurs d'Israël comme un signe de faiblesse. C'est le point de vue du général Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale d'Israël.
Les manifestants, et plus que les manifestations, c'est la menace de certains officiers et pilotes de réserve en Israël de ne pas venir s'ils sont appelés et donner à l'autre côté l'impression qu'Israël s'effondre.
Après des échauffourées entre des soldats israéliens et des Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem pendant le Ramadan, des dizaines de roquettes ont été tirées sur Israël. Les responsables israéliens affirment que les tirs de roquettes depuis le Liban au nord et Gaza au sud ont été orchestrés par l'Iran. Les dirigeants iraniens ont récemment établi des liens avec d'anciens adversaires comme l'Arabie Saoudite et le Hamas palestinien afin de consolider les alliances régionales contre Israël. L'analyste israélien du renseignement stratégique Avi Melamed craint des attaques simultanées sur plusieurs fronts.
Le régime des Mollahs, au bon moment, dans les bonnes conditions, va lancer une guerre sur plusieurs fronts contre Israël. Cela signifie qu'Israël sera confronté simultanément à une attaque massive menée par des mandataires iraniens de différentes arènes. La plupart d'entre eux entourent Israël, principalement le Liban, la Syrie, la bande de Gaza et peut-être d'autres cercles plus éloignés. C'est un concept connu dans la perspective de la sécurité stratégique israélienne sous le nom de cercle de feu.
Alors que l'Iran renforce ses capacités conventionnelles et arme ses alliés régionaux, il développe également l'option nucléaire. Les responsables israéliens pensent que l'Iran n'est qu'à quelques semaines d'avoir suffisamment de matériel nucléaire pour une bombe. Docteur Eliseva Machlis, spécialiste du Moyen-Orient à l'université Bar-Ilan.
Je pense que l'Iran est très proche d'avoir une bombe et d'avoir les capacités de produire une bombe, et c'est une grande menace pour Israël. Cependant, je ne les vois pas l'utiliser. Je pense que c'est purement dissuasif, car l'Iran est un acteur rationnel. L'Iran a démontré depuis la Révolution, pendant 4 décennies, que les intérêts, la politique de l'État sont également importants, aux côtés de l'idéologie.
Étant donné les circonstances, les responsables israéliens se demandent si un Iran possédant l'arme nucléaire présenterait une menace existentielle, mais ils affirment être préparés à se défendre contre toute attaque nucléaire ou conventionnelle venant de l'Iran et de ses mandataires régionaux.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.